Géopolitique.
We've learned again that democracy is precious.
Analyse.
Postez le combat.
Débat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Nous voilà arrivés au 10e épisode de Périscope, le podcast du CESM, auquel vous êtes de plus en plus fidèles et nous vous en remercions. 10e épisode consacré à la géopolitique de la mer. Nous aimerions d'ailleurs dire nouvelle géopolitique de la mer, tant la façon d'aborder la question a changé au fil des années. Sans même parler des conflits, de la surveillance ou encore de la dissuasion, le maillage de la mer, son utilité, que ce soit pour les câbles sous-marins désormais indispensables, le trafic commercial en mer, le développement d'algoculture, bref, autant d'éléments qui font que la mer que l'on découvre dans nos plus anciens romans d'aventure a bien changé. L'occasion rêvée pour nous de nous y plonger, et d'ailleurs de plonger dans un livre intitulé justement « Géopolitique de la mer ». Et vous êtes l'une des co-auteurs. Bonjour Julia Tasse.
Bonjour.
Vous êtes aussi responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS. Pour vous accompagner également, le capitaine de vaisseau Yann Briand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du bureau stratégie et politique au cabinet du chef d'état-major de la marine. Voilà une bonne entrée en matière pour votre livre, Julia Tasse, que vous coécrivez avec Sébastien Abyss, que nous connaissons bien ici dans Périscope. Il nous a notamment éclairé sur l'épisode, dans l'épisode de la sécurité alimentaire. Alors vous commencez votre livre de manière, j'allais dire, assez candide, puisque vous invitez le lecteur à comprendre la mer. Alors, si je n'avais pas lu votre livre, je vous demanderais immédiatement, mais qu'est-ce qu'il y a de si important à comprendre ?
Je ne sais pas si c'est candide, je vais peut-être prendre ce terme. Ça nous a paru important, avec Sébastien Abyss, de permettre au lecteur de comprendre comment l'océan fonctionne, la physique de l'océan, la biologie de l'océan. Alors, je vais rassurer les gens qui n'ont pas encore lu le livre, on ne rentre pas dans les détails, évidemment. On ne va pas vous demander d'avoir un doctorat en physique de l'océan.
On ne rentre pas dans les détails, mais il y a des fiches techniques qui sont extrêmement bien faites. Et justement, c'est fait pour mieux comprendre tout ça.
Oui, l'idée, c'est de comprendre aussi pourquoi l'océan, qui est donc un lieu où tout bouge, est aussi un lieu où il est compliqué pour nous, les humains, de se projeter et surtout d'y apposer notre manière de penser qui est basée sur des frontières et notre manière de penser continentale. Finalement, on est habitué à des montagnes, à des fleuves dont finalement le tracé va relativement peu changer et on doit faire face à un espace que le commandant connaît bien, bien mieux que moi pour avoir beaucoup plus embarqué, un espace très fluctuant, hostile, où il n'est pas fait cet espace pour qu'on y vive. Et donc nécessairement, la manière dont on va y apposer des cadres de gouvernance va être parfois maladroite, parfois fragmentée, parce qu'on n'est pas en mesure, nous, d'être totalement des êtres de la mer.
Alors si on décompose votre ouvrage, quatre parties au total, comprendre la mer, la maîtriser, cartographier les risques et se préparer à la mer de demain, il y a différents aspects que l'on abordera successivement, dont l'aspect purement militaire. Commandant Briand, si l'on se réfère au discours du président de la République le 8 novembre dernier à Toulon, il dit au travers d'une métaphore que les marines occidentales et donc la nôtre ne peuvent plus montrer les muscles comme avant.
Ce qui a radicalement changé dans les mois, les années qui viennent de s'écouler, c'est véritablement que la mer n'est plus un sanctuaire pour nous, d'où les marines occidentales pouvaient projeter de la force, de la puissance. On pense aux opérations en Afghanistan, en Syrie, en Libye. Ce moment est révolu. Ce qui nous a, nous, marqué marins français, c'est par exemple le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou la concentration de navires russes en Méditerranée, qui avait été un mouvement parfaitement organisé par des gens qui sont sans doute très forts en jeu d'échecs.
Comme les Russes, justement.
Exactement, ouais. C'était un très beau mouvement russe d'échecs. Faisait qu'effectivement, il fallait maintenant prendre en compte une possible, je dis bien possible, opposition en mer. Donc la mer n'est plus un sanctuaire, d'où librement nous pouvons mener nos opérations. Cette période-là est révolue. Et ça se caractérise également par un très fort réarmement naval. On cite souvent la marine chinoise qui,
on va en parler.
Qui effectivement fait une marine française tous les 4 ans, mais il y a beaucoup d'autres chiffres qui sont extrêmement significatifs.
Il y en a qui disent même tous les 3 ans. Donc
Oui, effectivement, alors, c'est entre 3
ça
et 4.
Ça veut dire que ça s'est accéléré.
Exactement. Donc oui, la mer n'est plus un sanctuaire pour les marines occidentales.
Alors, voici quelques points de vue liminaires. On va essayer de structurer ce podcast en 3 parties. D'abord, la première partie... Si vous le voulez bien, je l'ai appelé « Faire de la mer son meilleur allié ». Et si je reprends un petit peu vos éléments à tous les deux, d'abord, il y a quand même aujourd'hui, alors c'est de tout temps, mais il y a une exploration de la mer, j'allais dire, tous azimuts. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la découverte, comme je le disais dans nos romans d'aventure, pour la beauté de la mer, mais c'est une exploration à des fins, à la fin militaire, commerciale, économique. Et ça, d'une certaine manière, c'est peut-être nouveau, Julia Tass.
Oui, le progrès technologique nous permet d'aller plus loin en mer, d'aller plus profond dans des zones que l'on ne connaissait pas. Très souvent, on a dit que, par exemple, les fonds marins étaient des lieux méconnus, parce qu'on en connaît une petite partie, donc ce n'est pas inconnu, mais on n'en connaît qu'une petite partie. Et aujourd'hui, ça devient un enjeu de géopolitique. On peut en reparler si vous le souhaitez, mais il y a énormément de négociations qui se tiennent et de discussions qui se tiennent autour des fonds marins. Ça a toujours été un enjeu militaire, mais ça le devient d'autant plus. Et ça devient un enjeu commercial. Et là, c'est nouveau, puisque ça veut dire que pour que quelque chose soit commercialement intéressant, il faut qu'on puisse y accéder et que cet accès y soit relativement facile ou en tout cas viable économiquement. Mais... Et c'est là où il y a un basculement, c'est-à-dire qu'on passe d'une zone maritime où il était encore coûteux d'accéder, que ce soit en termes de coûts financiers, de coûts humains, il fallait être expert en la question, et puis il fallait souvent payer sa présence en mer par des morts, puisque finalement on perdait des hommes en mer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une transformation, qu'aller en mer peut passer par des drones, par des véhicules non habités, et donc là on a moins de pertes, et puis par des technologies qui nous permettent de réduire les coûts. Donc tout change, la manière dont on voit la mer change. Paradoxalement,
il y a des financements, même... parce qu'il y a des mécènes qui veulent participer à cette exploration. Mmh. Donc du coup, ça fait entrer, j'allais dire, un aspect commercial qui n'existait pas auparavant. Avant, c'était les États, des nations, justement des marines nationales qui s'occupaient de ça. Mais il n'y avait pas, j'allais dire, des marques qui apparaissaient, parce que maintenant, les mécènes arrivent avec beaucoup d'argent et sont très, très d'ailleurs intéressés, à la fois pour l'aspect symbolique, mais aussi pour des fins plus utiles, par l'exploration justement des fonds marins ou d'ailleurs l'exploration tout court.
Oui, alors il y a deux choses auxquelles vous me faites penser. La première, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui se projettent en mer et puis des entreprises dont ce n'était pas forcément le cœur de métier. Donc on le voit avec les câbles sous-marins, par exemple, les GAFAM envisagent la mer comme un espace qui est lié à leur cœur de business. Donc ce sont des nouvelles entreprises pour la mer. Et puis,
les GAFAM, ils s'en fichent complètement qu'il y a de l'eau autour. Hein.
C'est
un
pas le sujet.
Espace commercial comme un autre.
Hein. C'est pas le sujet, mais c'est... Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux GAFAM, mais en tout cas, c'est assez nouveau pour nous. Et puis, vous parliez d'explorateurs tout à l'heure. Effectivement, il y a quelque chose aussi qu'on peut souligner, c'est la philanthropie. Met énormément d'argent dans l'exploration des mers. Jusqu'à présent, il y a toujours eu des explorateurs. Il y a toujours eu des expériences avec des bathyscaphes qui allaient explorer la mer ou des expériences un peu extrêmes dans l'Arctique, dans l'Antarctique. Aujourd'hui, il y a des milliardaires qui investissent dans des sous-marins et on enregistre ce podcast le jour de la sortie d'Avatar, ce qui n'est peut-être pas hasard. Et James Cameron a mis énormément d'argent pour ce film, mais aussi pour explorer les mers, puisqu'il fait partie de ces quelques personnes qui ont pu parcourir des espaces qui n'avaient jamais été explorés avant.
Après, c'est un détail, mais il y a presque une course à l'échalote derrière. C'est-à-dire, quel est le milliardaire qui va aller au plus fond des mers, au plus profond, pardon, des mers? Quel est celui qui va arriver le premier? Quel est celui
Mais ça,
qui,
c'est voilà. humain. Ça, c'est humain. On fait la même chose dans l'espace. Donc,
je suis d'accord, vous avez tout à fait raison. Commandant Briand, j'ai envie de dire, mais... Que fait la police? Qu'est-ce qui encadre tout ça? Parce qu'on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans les fonds marins. Ou au contraire, est-ce qu'on peut?
Certainement. Alors déjà, une petite remarque préliminaire. Vous avez dit qu'on n'irait pas en mer pour la beauté de la mer.
J'ai dit ça.
Cru le comprendre, effectivement. Ayant eu la chance d'aller deux fois au Kerguelen, je peux vous dire qu'on en revient profondément transformé. Oui. Le pouvoir de la beauté de la mer est assez incroyable sur les hommes, je pense. Alors effectivement, la marine accompagne ce mouvement. Déjà parce que cette mer n'est pas forcément un Far West partout. Vous avez au moins les zones économiques exclusives. La France, c'est 11 millions de kilomètres carrés. C'est la deuxième surface en termes de ZEE au monde. Et donc, ces richesses potentielles ou ces richesses exploitées doivent être protégées. On assiste d'ailleurs à une augmentation de la pression de compétiteurs, d'entreprises, de pêcheries sur ces ZEE et sur ces ressources à protéger. Le dérèglement climatique, les atteintes à la biodiversité font que nous, nos zones étant bien gérées et protégées, préservent des ressources qui deviennent intéressantes pour d'autres. Et donc, il nous faut les protéger. Je pense que pour le moment, on réussit à les protéger relativement bien. Si on prend la zone Indo-Pacifique qui concentre plus de 80% de nos ZEE, on a finalement assez peu de bateaux, une douzaine, ce qui est très peu hein, pour les ZEE là-bas. Mais on y associe des moyens de haute technologie, du satellite, avec des start-up françaises qui font des choses remarquables et qui nous permettent d'aller au bon endroit au bon moment. Et donc, je pense que pour le moment, on tient bon sur ces zones-là. Après, se pose la question de la haute mer. Finalement, si vous avez une flottille de pêche qui vient ravager vos ressources à 201 nautiques des côtes, donc c'est-à-dire juste à un nautique de début de la ZEE, comme ça s'est passé en Argentine il y a maintenant à peu près un an, c'est un vrai problème pour vous. Les calamars ne connaissent pas les zones, les limites de ZEE. Donc s'ils ne sont plus là, ils ne sont plus là pour être ensuite dans votre ZEE. Alors il y a des efforts très intéressants, d'ailleurs avec la France qui est assez leader, BBNJ par exemple, qui est un accord qui vise à protéger la biodiversité au-delà des ZEE. Et je pense qu'on est arrivé maintenant à une centaine d'États qui ont ratifié BBNJ. Donc peut-être qu'il arrivera à être mis en œuvre dans les années qui viennent. C'est une très bonne chose et je pense que la France est moteur dans ce sujet. Se posera ensuite la question de comment assurer la police en haute mer de ces accords qui ont été signés. C'est pas parce qu'un accord est signé, parce qu'un décret derrière est mis en place, que la protection est assurée. Il faudra aller en mer. Donc c'est une question.
Et en
aussi.
Même temps, on peut pas mettre, comme on dit souvent, on peut pas mettre un policier derrière chaque individu. On peut pas non plus mettre un bateau à chaque zone
non.
de tension.
Non, c'est certain. Mais à nouveau, les nouvelles technologies nous aident beaucoup. Le satellite, notamment, sont des technologies. Et puis, vous avez des obligations légales. Normalement, un certain nombre de bateaux, dès que vous dépassez une certaine taille, doit avoir une balise pour expliquer ce qu'il est en train de faire en termes de pêche.
Normalement.
Voilà. Et c'est là aussi où beaucoup de choses, d'un point de vue diplomatique, doivent se faire pour qu'on arrive à un état de régulation satisfaisant, sans arriver au scénario que Julia a mis dans son livre d'une interdiction mondiale de la pêche, qui est un scénario intéressant à échéance peut-être d'une dizaine d'années, qui était tout à fait hypothétique, qui visait, je pense, à réveiller un peu les consciences de chacun, mais qui est assez intéressant et qui interpelle.
C'est en jetant des pavés dans la mare qu'on arrive à se faire entendre.
Exactement. Le but de ce scénario était d'interpeller, donc je suis très heureuse qu'il
l'interpelle. Vous n'aimez pas le poisson ? C'est bon pourtant, on parlait des calamars à l'instant.
On peut discuter, si vous voulez, de ce scénario. L'idée, c'était que, effectivement, avec l'activité de pêche qui se développe et quand on voit les besoins qui sont croissants, on a comme horizon le fait qu'on va avoir de plus en plus de présence de bateaux de pêche en mer, qui vont être de plus en plus difficiles à contrôler, puisque, et ça a déjà été évoqué, ils n'activent pas toujours les appareils de localisation et ils n'indiquent pas toujours quel est le but de leur activité. Et donc l'idée qu'on avait à partir de ce scénario avec Sébastien Abyss, c'est de dire qu'il est difficile de contrôler une activité que l'on autorise avec ensuite des contrôles ci et là. Et donc il serait plus facile pour que la pêche se déroule de manière durable et dans le respect du renouvellement des stocks, de tout interdire et d'autoriser peu à peu ensuite certaines flottilles de pêche à opérer. Donc, on
faire
est parti
un grand
de...
vide d'un coup et ensuite redistribuer les cartes de façon parcimonieuse.
Exactement. Et donc on a proposé ce scénario qui est assez extrême puisqu'on a tout simplement eu l'idée d'interdits internationaux pour le futur qui s'applique ici à la pêche, mais l'idée c'était de l'appliquer à d'autres activités qui touchent le déclin de la biodiversité ou le changement climatique, et d'interdire certaines activités pour ensuite effectivement ouvrir les vannes peu à peu, mais ça permettait un contrôle plus précis. Donc dans ce scénario, effectivement, en 2030, on interdit la pêche.
Dans mon chapitre de faire de la mer son meilleur allié, et aussi parce que vous êtes à l'IRIS, la défenseuse de ce programme énergie-climat, il y a aussi la pollution en mer. Il y a la pollution en commençant par le plastique, et on sait que la Fondation de la mer, Sabine Roux-de-Bézieux et plein d'autres justement luttent avec des opérations, des campagnes anti-gaspi, anti-pollution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, d'ailleurs, première question, est-ce qu'il y a un mieux dans cette... est-ce que les gens prennent conscience ou est-ce qu'il y a toujours autant de plastique en mer?
Alors, il y a un mieux, il y a un double mieux, je dirais. Déjà, en termes de prise de conscience des citoyens, peu à peu, le fait de considérer le plastique comme un déchet non renouvelable et qu'on ne va pas pouvoir surtout contrôler et qu'il y a une grande partie qui finit en mer, la majorité des citoyens aujourd'hui ont conscience du problème. Donc ça, c'est quand même un premier pas.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Dans les années 2000, le recyclage, le tri n'était pas quelque chose qui était automatique. Aujourd'hui, ça le devient. Donc le premier bon point, je dirais, c'est qu'au niveau de la prise de conscience citoyenne, on a fait énormément de progrès.
Vous voulez dire que ce qui se passe sur Terre a des effets en mer?
L'essentiel du plastique que l'on retrouve en mer vient de la Terre. Donc effectivement, si on ne régule pas ce qui se passe sur la Terre, le plastique en mer va continuer à augmenter. Donc premier mieux, la prise de conscience citoyenne. Deuxième mieux, la prise de conscience, ou en tout cas l'action au niveau international. Il y a eu en début d'année un accord sur le fait qu'on allait travailler sur une interdiction du plastique, ou en tout cas avancer sur cette interdiction du plastique. Entre la COP climat qui s'est tenue en novembre et la COP biodiversité qui se tient en ce moment au Canada, il y a eu des discussions pour avancer sur ce sujet de régulation de l'usage du plastique au niveau international. Ça, c'est un deuxième mieux. Je mettrai cependant une petite prudence, j'émettrai une petite
un
prudence,
bémol.
Un bémol quant à ces avancées, puisque l'Union européenne et en grosse partie également la plupart des gros pays qui vont utiliser le plastique n'ont pas ou peu les centres de recyclage nécessaires pour traiter le plastique qu'ils consomment, et donc ils vont l'exporter. Mmh. Et c'est là où ça devient un problème de sécurité, puisque les exportations de plastique n'ont pas cessé d'augmenter depuis des décennies. Or, jusqu'aux années 2015-2018, c'était la Chine qui traitait une majorité de ses déchets plastiques et qu'elle a décidé de ne plus le faire. Mmh. Et se sont développées des mafias. Alors, il y avait déjà des mafias, mais là, ça a vraiment été l'apogée de mafias qui étaient payées pour recycler le plastique et qui se contentaient de les stocker sur des plages, avec l'effet qu'on peut
mieux.
Imaginer.
Hein,
c'était très pratique. C'était donc, pour ces mafias, un moyen d'avoir de l'argent facile. Et c'était une opération, je dirais, très très facile à mener. Interpol, Europol s'occupent de ces sujets, par exemple. Et là, c'est pas vraiment une amélioration. Pour l'instant, en tout cas, on n'arrive clairement pas à traiter l'ensemble du plastique qu'on consomme.
Diane Briand, sur le respect de la régulation de la pollution, on fait comment ?
Vous pourriez vous dire, finalement, pour la marine, toutes ces questions, ça n'a aucun intérêt. Et c'est absolument pas vrai, parce qu'on sent bien que derrière ces questions d'atteinte à la biodiversité, c'est la fragilisation de certaines pêches traditionnelles, par exemple. Si on prend le golfe de Guinée, par exemple, 80% des protéines des populations qui vivent sur le pourtour du golfe de Guinée viennent des poissons. Et donc, finalement, ces atteintes à la biodiversité, par la pollution, par la surpêche, par la pêche illégale, c'est un générateur de crise, potentiellement. C'est un générateur de populations qui vont se tourner vers des réseaux criminels pour aller faire du narcotrafic, de la piraterie, par exemple, pour déstabiliser des États. Et donc, derrière, ça nous inquiète. Et donc, la marine essaye, le plus en amont possible, d'intervenir. Alors, ça peut être en soutien des scientifiques pour comprendre ce qui se passe dans l'océan. On a un très beau projet avec Sorbonne Université en ce moment pour aller mettre des capteurs qui vont analyser le plancton en mer et son évolution. Ça peut être aussi, évidemment, on le connaît très bien sur les missions de lutte contre la pollution en mer. On l'a fait encore au large de la Corse pour sauver les plages juste avant l'été, il y a maintenant 2 ans, après une pollution. Bon, voilà. Donc tous ces éléments-là font que, pour nous, c'est extrêmement important. Julia l'a très bien dit, la plus grosse partie, la grosse solution viendra d'abord, un, d'une prise de conscience, et deux, d'accords internationaux, d'accord, donc c'est un effort diplomatique. Mais une fois que ces accords effectivement diplomatiques seront là, qu'on aura des outils, mm-hmm. Et oui, il faudra que les marines effectivement s'engagent, on peut voir déjà des prémices un peu de tout ça. Le président au One Ocean Summit de Brest avait annoncé que les marines européennes...
Le président français.
Français, mm-hmm. Oui. S'engagerait effectivement à aider nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest pour mieux lutter contre la pêche illégale dans le golfe de Guinée. Donc vous voyez, là, il y a une première initiative qui se lance, à nouveau à l'initiative de la France, mais les États-Unis font aussi des choses dans le Pacifique. C'est d'ailleurs finalement aussi un outil de soft power, un peu, parce que c'est aider certains États sur ces questions, et donc c'est un peu gagner les cœurs et les esprits, si on veut être cynique. Mais derrière tout ça, il y a quand même une préservation de l'environnement, qui est une question fondamentale. Je dirais même, sans vouloir utiliser des mots un peu inquiétants, pour la survie de l'humanité.
Oui. Il y a une... vous parlez comme le commandant Cousteau. Il y a une question qu'on a abordée un petit peu tout à l'heure, c'est les câbles qui, aujourd'hui, sont absolument... c'est même plus nécessaire. Ils sont tellement indispensables au fait que nos petits smartphones qui sont dans nos poches, qui sont notre seconde peau, puissent fonctionner. Comment est-ce qu'on fait pour, j'allais dire, câbler sans décâbler? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir... j'allais dire, avoir une bonne régulation de ces câbles sans pour autant détruire la faune, la flore, les fonds marins. Qui est-ce qui cartographie ça? Comment est-ce qu'on fait pour respecter? J'imagine que tous les opérateurs, ne serait-ce que Orange Marine, évidemment, sont contraints à des règles extrêmement compliquées. Mais...
Alors, ils sont contraints dans les ZEE au droit du pays. En tout cas, il faut qu'ils respectent un certain nombre de normes environnementales. Après, en haute mer, ça va être du droit international, la régulation de l'Organisation maritime internationale. Mais finalement, il n'y a pas d'accords internationaux qui encadrent la pose de câbles et qui soient associés à une forme de protection de l'environnement.
Aujourd'hui, donc, il n'y a pas un texte qui dit « Attention, un câble ne peut pas traverser je sais pas moi, une réserve naturelle sous-marine absolument incroyable où il y a des poissons qu'on ne voit que à cet endroit-là. »
Alors, dans les eaux internationales, il n'y a pas encore d'aire marine protégée, sauf autour de l'Antarctique, mais la question de la connexion et de la connectivité numérique de l'Antarctique ne se pose pas encore. Donc, ce n'est pas la priorité de cette aire marine protégée internationale en Antarctique, c'est la pêche. C'est donc l'objet de, petite parenthèse, mais le fait de mettre en place des aires marines protégées dans les eaux internationales, c'est au cœur des discussions BBNJ qu'évoquait le commandant tout à l'heure.
Oui, sans parler du cadre légal. Quand je vous disais une réserve naturelle, c'était un endroit où peut-être on se dit qu'il est plus beau qu'un autre. Je sais pas. C'est.
En fait, la difficulté, c'est que donc le câble sous-marin, par essence, il est posé sur le fond des mers. Or, on connaît peu le fond des mers et on connaît assez peu les écosystèmes qui s'y trouvent. Donc, il y a beaucoup plus de câbles qu'on a de connaissance des écosystèmes qui se trouvent dans ces fonds marins. Donc,
ce qui a un sens, oui. Pardon, commandant Briand.
Je ne suis pas certain qu'effectivement, parce qu'on en est à quoi 100, 150, enfin, le nombre de câbles n'est pas non plus colossal.
Hein, 450, je crois.
Ouais, l'environnement et pas l'impact sur l'environnement, je ne pense pas qu'il soit à ce point délétère. En revanche, on peut même retourner l'argument, c'est que par ces câbles, il est maintenant possible d'aller mettre dessus des capteurs pour mieux comprendre un certain nombre de choses sur l'évolution effectivement de la colonne d'eau, comment ça fonctionne, et donc finalement quelle interaction aussi entre l'océan et les climats, ce qui est fondamental pour comprendre les questions de dérèglement climatique. Donc le câble peut devenir un allié sur ces questions même environnementales ou de biodiversité. Donc,
mais il faut le prendre dans ce sens-là, c'est mieux.
Oui,
et ça nous rassure.
Alors, peut-être qu'effectivement, des études démontreront une certaine nocivité des câbles,
oui,
et puis
dans 100 ans.
On ne va jamais les récupérer une fois qu'un câble n'est plus opérationnel, c'est vrai. Je pense quand même que l'impact.
Ça, c'est comme les satellites.
Je pense que l'impact est limité. Ouais. Mais à nouveau, on peut en faire un allié, on peut s'en faire un allié pour mieux comprendre certaines questions biologiques.
C'est assez amusant d'ailleurs, vous remarquerez que vous dites 450 câbles.
Ouais, c'est
que 450 câbles sont uniquement nécessaires pour des milliards d'individus. Ça, c'est quand même une prouesse.
Et il me semble que plus de 25% de la flotte mondiale de câbliers est plus ou moins contrôlée ou détenue ou contrôlée par la France. Ce qui nous fait un avantage colossal, même, je dirais, en termes de. Là aussi, j'aime pas trop ce terme, mais de soft power, parce que qui passe les câbles a un pouvoir assez important, finalement. Et c'est un pouvoir qu'à mon avis, il va falloir utiliser, créer des nouveaux hubs sur nos territoires d'outre-mer, par exemple, pour relier certains États qui ne dépendront pas ainsi de câbles ou chinois ou américains. Ils auront un troisième choix possible.
Alors j'en viens à ma deuxième partie, que j'ai intitulée « Accepter la mer comme une zone de conflit », parce que ça, on a beau aimer la mer et revenir à chaque fois transformé, transfiguré par les paysages marins, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Yann Briand. Cependant, la mer est plus que jamais aujourd'hui. Vous avez parlé du réarmement, vous allez en reparler de manière plus intense et plus précise maintenant. Il y a, en ce moment surtout, depuis le 24 février dernier, une course, ou en tout cas un minuteur qui s'est mis en place, parce qu'il peut se passer des choses en mer, et pour l'instant c'est le point d'interrogation.
Oui, c'est un énorme point d'interrogation. Finalement, le virage de certains de nos compétiteurs a été pris au début des années 2000. Parce qu'on ne construit pas une marine en 5 ans, on l'a construit sur des périodes beaucoup plus longues. Ce virage, alors c'est très facile de refaire l'histoire, mais pour les nations occidentales, il aurait sans doute été bon à ce moment-là aussi de prendre acte de ce réarmement naval colossal. En nombre de navires, la marine chinoise a dépassé la marine américaine, pas du tout en tonnage encore, et en expertise, en savoir-faire, je pense que la marine américaine
en savoir-faire,
garde encore sur des questions sous-marines.
Qualité de pilotage,
exactement.
Vous qui êtes justement dans l'aéronaval.
On garde encore un certain avantage, mais pour combien de temps, c'est une vraie question. Donc oui, effectivement, il y a eu ce réarmement naval, et ce qui est important de comprendre, il y a deux choses, je pense, qu'il faut souligner. Un point contre lequel il faut lutter, quand on dit que l'armée russe s'épuise en Ukraine, c'est très vrai pour son armée de terre, c'est vrai en partie pour son armée de l'air, et c'est absolument pas vrai pour sa marine. Mmh. Bon, il y a eu l'épisode dramatique du Mosva, il y a eu quelques navires amphibies qui ont été endommagés, mais le reste de sa marine et sa flotte sous-marine est totalement intacte. Mmh. Et finalement, si vous vous placez... La nôtre aussi, Dieu merci. Si vous vous placez du côté de Moscou, parce que de toute façon, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec un État, disons, totalitaire à nos frontières pendant encore très longtemps, l'outil naval va devenir, même avec le cyber, avec la lutte informationnelle, des outils extrêmement utiles pour continuer à faire pression sur l'Occident pour obtenir un certain nombre de gains politiques.
Qu'est-ce qui se passe pour la mer en tant qu'une masse d'eau, en fait, qu'on essaye de protéger, et je le disais, on essaye d'en faire son allié, quand on sait qu'il y a cette tension palpable? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'on prend en compte aussi, ou est-ce qu'on se dit, bah non, en fait, c'est un terrain, non pas de jeu, mais c'est un terrain de conflit qu'on va utiliser comme un champ de bataille si besoin est?
Dès qu'on a parlé de Toulon, on peut rencontrer une frégate russe, une frégate chinoise, une frégate. Donc c'est effectivement un champ de bataille qui est uniforme. Il y a des cartes très intéressantes qui montrent que finalement, c'est une projection, on est au-dessus du pôle sud, et on voit qu'il y a finalement un seul océan. Et donc c'est effectivement un seul Alors, le terme de terrain de jeu est sans doute un peu cynique, mais il y a un seul terrain de jeu.
C'était voulu.
Et sur lequel, effectivement, on peut se déplacer sans aucune contrainte. Mmh. Et donc, nos compétiteurs peuvent venir devant Toulon s'ils le souhaitent, de même que nous pouvons venir devant leur côte également. Et ce qui est important de comprendre aussi dans ce monde maritime, qui est vrai aussi dans le monde cyber et dans le monde spatial, c'est que ce sont des endroits où les régulations sont finalement assez faibles. Et ce sont des endroits où vous pouvez passer un nombre de messages politiques extrêmement fins. Quand un navire décide d'éclairer conduite de tir un autre navire, c'est un message politique très clair. Quand vous envoyez une flotte de garde-côtes qui va aller passer 50 yards devant votre étrave, c'est un message politique très clair. Tout ça fonctionne tant que les nerfs et l'intelligence du commandant qui allait entre 35 et 40 ans de la frégate ou du gamin dans son avion de chasse qui a 35 ans comprennent très bien quels sont les messages politiques dont ils sont porteurs. Mais on voit bien que toute la stabilité de certaines zones comme la Méditerranée orientale, la Baltique, la mer de Chine méridionale, en est maintenant à reposer sur les nerfs de ces gamins. Et c'est quand même assez effrayant de voir que, oui, il y a un moment où potentiellement ça peut déraper. Alors ça peut déraper volontairement ou non. En 2021, l'HMS Defender passe devant la Crimée. La Russie communique énormément sur le sujet, est assez agressif face au passage de ce navire de la Royal Navy. Et surtout, Vladimir Poutine dit... Quand bien même nous aurions coulé ce navire, nous ne serions pas au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mmh. On a très bien compris ce message, on en prend acte. Donc oui, maintenant, nous nous préparons à un retour du combat naval. On n'a jamais baissé la garde sur ces questions. On s'y prépare beaucoup plus sérieusement maintenant.
Ça vous inquiète, Juliette Haas, non pas pour des questions géostratégiques et pour, je vais reprendre vos mots extrêmement pompeux, mais pour l'avenir de l'humanité, mais pour, d'un point de vue strictement, qui est votre spécialité, climat, énergie, sécurité de la mer?
Oui, effectivement. De toute façon, toute activité humaine en mer, et d'autant plus une activité destructrice, comme c'est le cas de la guerre, a un impact sur les écosystèmes, sur le milieu, pour utiliser un mot de physique, donc sur l'équilibre biochimique et physique du milieu. Mais ce n'est pas particulier à la mer. C'est-à-dire qu'on fait la même chose sur Terre, et on le fait d'ailleurs très bien, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a le prisme climat, et malheureusement j'ai ce prisme climat, on voit la guerre non seulement comme une activité...
ou heureusement.
Ben non, parce que ça rajoute du négatif au négatif, puisque les activités de montée en puissance et de réarmement, que ce soit sur terre comme en mer, ne nous donnent que des outils en plus pour à la fois tuer des populations, mais aussi atteindre des écosystèmes et des équilibres qu'on met déjà en danger par nos activités commerciales. Quand la guerre en Ukraine a commencé, il y a énormément de médias qui sont venus vers nous pour savoir quel était l'impact environnemental et climatique de la guerre. Alors c'est très indécent de parler de ces sujets, donc on n'a pas souhaité étudier ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'au-delà de pertes humaines, ce qui se passe en ce moment a un impact climatique énorme. Et ça a d'ailleurs été une des conclusions qu'on a tirées du sabotage de Nord Stream. Mmh. Tout le gaz qui s'est échappé de ce pipeline constituait, je crois, l'équivalent des émissions de population comme celle du Danemark en un an. Et donc, non seulement on accélère notre propre perte à travers le retour du conflit en mer comme sur terre, pour la simple et bonne raison que c'est parfois le but de la guerre, mais on accélère aussi notre perte à travers le changement climatique.
Et puis, on peut y ajouter effectivement que parce qu'il faut que les sociétés continuent à fonctionner, on en arrive à des solutions qui sont à 180 degrés d'ambition climatique. On va relancer les centrales au charbon parce qu'il faut continuer à fonctionner. On va effectivement rechercher des sources d'énergie qui ne sont pas forcément dans une optique de développement durable. Et donc ces conflits, effectivement, au moment où on devrait tous être autour de la table, parce que c'est déjà très tard, pour trouver des solutions face au dérèglement climatique, les ponts sont coupés avec quand même beaucoup de compétiteurs pour discuter même de ces questions. Et on se retrouve dans les logiques d'affrontement qui n'aident pas du tout à aller ensuite vers des solutions pérennes en termes de protection de l'environnement ou de dérèglement climatique. Donc c'est effectivement assez inquiétant. Et le temps géopolitique, le temps de ces crises, même de ces chocs, puisque maintenant on n'en est plus à des crises mais à des chocs, on ne reviendra pas à l'état antérieur, va durer, va être long, c'est peut-être une génération. Et pendant une génération, on aura du mal, je pense, à avancer sur les questions climatiques. Le temps de régler ces questions, comme l'a dit le président le 9 novembre, on a quitté l'ordre international ancien et on n'a pas défini le nouveau. Et tant qu'on n'a pas défini le nouvel ordre international, je pense qu'il va être difficile d'avoir des grandes ambitions en termes de dérèglement climatique.
Mais en attendant, puisqu'on parle de réarmement et de sujets bien précis, pour rattraper ce que font les Chinois ou pour atterrir là où sont les Américains, c'est totalement inenvisageable.
En termes de technologie navale, vous
voulez dire ? En termes de moyens et en termes de masse, en
Alors,
fait.
Oui et non. Comme je vous l'ai dit, effectivement, le virage aurait pu être pris au début des années 2000 si on avait voulu effectivement monter en puissance de manière véritablement significative. Pour autant, il y a quand même deux axes qui sont source d'espoir, je dirais, vu de la marine française. Un, c'est que nous avons des technologies de pointe en France, et donc on peut, sur les navires que nous possédons, augmenter fortement la létalité de nos navires. On va pouvoir mettre des armes à énergie dirigées qui vont pouvoir détruire des drones, qui vont pouvoir éblouir des satellites. On va mettre, et ce dont je vous parle, ce sont des programmes qui sont lancés sur un cycle très court et qui vont arriver sur nos bateaux dans les années qui viennent, mettre des data hubs embarqués pour collecter beaucoup plus de données, pour permettre aux industriels de mieux caler encore nos systèmes de combat. Ça va être des drones que l'on va pouvoir installer rapidement sur nos bateaux. On loue des capacités pour maintenant intervenir dans les fonds marins jusqu'à 6000 mètres, alors qu'il y a deux ans, on n'avait absolument rien de ces capacités-là. Donc on évolue sur des cycles courts, en essayant d'aller au plus vite, en augmentant la létalité ou l'efficacité de nos moyens. Donc ça, c'est la première axe d'espoir, je dirais, c'est qu'on n'attend pas forcément la nouvelle génération de frégates qui arrivera dans 15 ans, on fait déjà avec ce qu'on a.
Mais vous êtes déjà en train de catastropher, Juliata, sur les conséquences climatiques de tout ce que vous venez de dire.
Malheureusement, je pense que le leitmotiv à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité environnementale sans sécurité tout court. Mais en faisant ça, on perd du temps. C'est un temps colossal qui est perdu alors qu'on devrait être à nouveau autour d'une table
mais
en train de discuter.
Mais oui, mais est-ce que vous ne craignez pas que plus les années passent et plus justement ces deux points de vue se confrontent à tel point que finalement c'est la légende de l'âne qui ne s'est pas décidé entre l'avoine et l'orge et qui finit par mourir de faim?
J'étais pas arrivé avec l'idée d'avoir un tableau extrêmement sombre, mais finalement vous m'y poussez un peu. Oui, effectivement, à force de perdre du temps, ce que l'on sait dans l'équation géopolitique très complexe, il y a deux éléments de l'équation qui sont sûrs. C'est la démographie, donc c'est l'écroulement de la démographie dans certains États, c'est toujours la dynamique très forte dans d'autres, et puis c'est le dérèglement climatique. J'ai eu la chance de discuter avec certains avec des chercheurs du GIEC, quoi qu'on fasse jusqu'en 2050, le climat va se dérégler. Et vous voyez déjà les conséquences alors que nous sommes en 2022. Imaginez ce que ce sera un été en France en 2050. Donc, il va falloir à la fois faire face à le dérèglement climatique, les atteintes à la biodiversité et un contexte géopolitique qui n'est absolument pas stabilisé. Donc oui, tout ça est très très inquiétant, effectivement. Oui.
On célèbre cette année les 40 ans de la Convention de Montego Bay. Est-ce que, d'une certaine manière, il faudrait tout remettre à plat, comme dans les sphères gouvernementales, on dit toujours qu'il faut faire des réformes structurelles que finalement on ne fait jamais. Et est-ce qu'il faut réimaginer un droit de la mer, Juliata? Est-ce qu'il faut tout remettre à plat en disant, ben voilà, comme il n'y a pas de pilote dans l'avion, et je n'ai pas ça pour vous, commandant, comme il n'y a pas de pilote dans l'avion, ben, il faut quand même faire quelque chose.
Alors merci pour cette question très facile.
Bien sûr, on est là pour ça. Est-ce qu'on pose les vraies questions?
Non, on ne peut pas tout remettre à plat. Alors déjà, ça ne se fait pas à un niveau national, donc à un niveau international, ce serait...
Oui, mais on peut impulser, on peut être prescripteur d'idées, ça, on ne s'est jamais interdit ça, d'ailleurs en France.
Non, mais alors ce qui se passe en ce moment est intéressant, puisque donc effectivement, on célèbre les 40 ans de cette convention. Cette convention, déjà, elle a établi beaucoup de grands principes qui sont structurants et qui permettent vraiment de contrôler ce qui se passe, ou en tout cas de pouvoir suivre ce qui se passe dans certaines zones. Alors effectivement, il reste les eaux internationales, où là, on peut davantage encadrer ce qui s'y passe, mais on a quand même une base qui est intéressante. Si on la remet en cause, cette base, on se dirige vers un monde où il n'y a plus de règles. Donc il ne faut pas remettre en cause la convention de Montego Bay. Au contraire, il faut essayer d'entraîner certains pays qui, eux, pourraient encore, remettre en cause cette convention pour atteindre un niveau de consensus international. Surtout que si on remet en cause cette convention, on remet en cause des années et des années de discussions, de négociations, et ce serait extrêmement dommage. Non, ce qui se passe en ce moment, c'est on complète la convention de Montego Bay. C'est-à-dire que les textes qui sont négociés, que ce soit le texte BBNJ, je vais essayer de traduire l'acronyme en français, c'est pour encadrer les activités qui ont un lien avec la biodiversité au-delà des zones sous juridiction nationale. L'idée de ces textes-là, c'est vraiment de venir compléter cette convention avec des outils juridiques, avec des outils en termes de droit international qui permettent de mieux contrôler l'usage de la biodiversité et donc possiblement les atteintes qu'on y porte. Donc au contraire, il faut continuer à le développer ce droit et à l'appliquer.
Dernière partie de ce périscope numéro 10, la mer de demain. Double question, quelle mer voulons-nous pour demain? Et est-ce qu'on peut accepter, Juliata, que la mer ne sera plus jamais comme avant?
Oui, alors ça me permet de rebondir sur ce dont on discutait tout à l'heure. Vous n'étiez pas venu, commandant, pour être trop négatif. Et moi, j'étais pas venu pour parler de la marine plus que de climat. Mais en fait, tout à l'heure, on parlait de l'impact du réarmement naval sur le milieu marin. Et je voulais quand même être un peu positive à ce sujet parce que c'était très négatif. L'avantage de travailler avec des acteurs comme la marine, c'est que Tout à l'heure, on parlait de terrain de jeu. Je pense que c'est
de une manière cynique.
C'est une manière de voir les choses. Mais en fait, il y a assez peu de citoyens qui sont en mesure de visualiser l'espace maritime dans son ensemble et pas seulement la surface ou à peu près ce qu'on voit depuis la plage. Donc il y a évidemment certaines industries, il y a la marine et il y a des scientifiques qui travaillent sur ces sujets au quotidien. Donc un point positif, c'est qu'on ne peut pas protéger la mer sans la connaître, on ne peut pas la connaître sans l'envisager dans son entièreté, et ça repose sur certains acteurs qui ont cette vision-là. Et puis, on ne peut pas la protéger sans des moyens de protection qui soient efficaces et donc parfois militaires. Donc la mer, elle va nécessairement changer parce que justement, cette vision qu'on a de l'espace maritime, elle est de plus en plus précise. Mmh. On va vers une connaissance de la mer qui est de plus en plus précise, de plus en plus documentée. Alors c'est un avantage énorme pour les scientifiques. On va enfin comprendre des espaces qu'on ne connaissait pas. Mais effectivement, la mer ne sera plus jamais la même parce que je pense que peu à peu, on va enlever le voile un peu mystérieux d'une mer hostile, d'une mer inconnue, pour aller vers quelque chose de plus mesuré. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, ça va peut-être être un peu moins mystérieux, un peu moins énigmatique. Mais par contre, beaucoup plus parlant pour beaucoup de générations. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits...
Non, mais je souriais et je posais la question à Yann Brière, mais c'est dompter la mer, c'est quand même le rêve de tous les marins. C'est quelque chose qui est...
Ils ont croisé quelques vagues de plus de 10 mètres, j'aimerais bien pouvoir dompter la mer, mais la comprendre. Et déjà, d'ailleurs, pour revenir à ce que disait Julia sur sa maîtrise, on le voit déjà sur les prévisions météorologiques. C'est incroyable. Quand je pouvais descendre au Kerguelen, j'avais des prévisions extrêmement fiables qui me permettaient quand même d'éviter le plus gros des dangers. Mes anciens, il y a une vingtaine d'années, partaient en espérant ne pas croiser des tempêtes. Donc déjà ça, et on va aller beaucoup plus loin, effectivement, sur la compréhension du fonctionnement de l'océan, et ce serait une très bonne chose. On ne va pas
J'aimerais bien quand même savoir si dans quelques années, on ne se retrouvera pas, comme qu'à la bonne vieille époque, sur la passerelle, sur le pont, avec la casquette dégoulinante, parce qu'on s'est pris des vagues absolument épouvantables.
Oui, nous irons toujours dans ces mers-là.
En prenant le cas,
bien évidemment. Je pense qu'on peut ajouter quand même, et peut-être une note d'espoir, que là où on laisse la nature un peu tranquille, elle nous offre des spectacles incroyables. Et elle sait se renouveler, elle sait, parce qu'on la laisse tranquille, elle est plus résiliente aux dérèglements climatiques. Et donc, dans ce monde, cet océan qui ne sera plus jamais le même, on peut aussi apporter cette touche d'espoir. C'est que si on réussit à en protéger une bonne partie, la nature fera le travail après.
Je ne peux qu'être d'accord. Et d'ailleurs, un des grands enjeux pour la mer de demain, ça va être à la fois la protection de la biodiversité, mais aussi le fait de ne pas aller plus loin dans le basculement physique et chimique qu'on observe de l'océan en raison du changement climatique. Mmh. Et là, on a quelque chose d'assez clé qui est que l'océan a un rôle tampon, un rôle essentiel dans le climat et il va venir absorber une grande partie de la chaleur que nous, on crée avec nos activités. Il va venir absorber le dioxyde de carbone, etc. Donc si on déstabilise plus avant cet océan, on va également mettre en danger notre capacité à avoir un effet régulateur du climat qui est déjà sous pression par les activités humaines et le changement climatique.
Alors, d'une manière générale, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, mais on a vu les enjeux. Quels sont les outils pour optimiser cette mer qu'on aime tant, pour qu'elle soit source de vie, d'alimentation, de connaissances, comme elle a toujours été, qui a été notre alliée? Et là, je quitte un peu le fameux terrain de jeu. Décidément, ça va devenir un leitmotiv. Comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser, pour l'aider, cette mer, à rester optimale pour nous?
Je ne vais pas utiliser le mot optimiser parce que c'est assez délicat de l'utiliser pour un espace physique et biologique comme celui-là. D'une part, si on voulait vraiment protéger la biodiversité marine, on n'irait plus en mer. Ça, c'est un premier point. On ne peut pas.
Vous pouvez enlever votre uniforme, ça ne sert plus à rien, Yann Briand.
Si on voulait vraiment, comme tout espace, si on voulait vraiment protéger la biodiversité de manière très efficace, on n'irait plus. C'est d'ailleurs pourquoi il y a certaines aires marines protégées qui seraient des aires marines protégées dans lesquelles il n'y a aucune activité.
Vous avez dit que c'était en work in progress, c'était pas encore
dans
totalement délimité.
Dans les eaux internationales, il y a des aires marines protégées dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction qui sont des no-take zones, donc on ne va pas avoir d'activité humaine dans cet espace maritime.
Normalement. Je reprends le normalement de tout à l'heure.
Après, pour tout ce qui est secteur de l'économie bleue qui peuvent se développer en mer, parce que la mer est aussi un espace où, grâce au progrès technologique, on va pouvoir développer des activités économiques. Il y a d'une part les énergies marines renouvelables. Donc la plupart des gens vont penser aux éoliennes en mer. Mm-hmm. Ce n'en est qu'une partie. On a des projets qui se penchent sur la possibilité de mettre des hydroliennes en mer, sur la possibilité d'utiliser l'énergie de la houle, des vagues, des marées, etc. Les marées, on le fait en France depuis longtemps. Il y a l'aquaculture, donc le fait de faire de l'élevage en mer, c'est le cas pour les saumons, mais on peut développer cette aquaculture et il est important de la développer de manière durable pour éviter de reproduire en mer les erreurs qu'on a faites sur Terre. Et puis, il y a beaucoup d'autres secteurs qu'on va pouvoir appliquer aux espaces maritimes. Par exemple, les biotechnologies, exactement, aller chercher des gènes, des molécules dans certains organismes marins. Alors là, il ne faut pas me lancer sur la question parce que j'adore ce sujet-là, mais il y a des organismes marins avec capacités incroyables.
On va en savoir plus.
Il y a des organismes marins qui résistent à des pressions impressionnantes puisqu'ils sont dans des espaces au fond de l'eau et donc il y a une pression très forte. Il y en a qui vont développer des capacités d'oxygénation de leur sang que l'on trouve nulle part ailleurs, pour justement répondre à un manque d'oxygène dans ces eaux très denses. Il y a d'autres organismes marins qui vont avoir des molécules pour lutter contre le cancer, des molécules fluorescentes. Et donc tout ça, ce sont des outils pour les personnes qui travaillent sur la génétique, sur la pharmaceutique de demain. Et puis, on va aussi trouver en mer des capacités de climatisation qu'on commence à développer peu à peu, mais on va aller venir chercher de l'eau froide dans le fond des mers pour climatiser des systèmes qui seraient sur les côtes. Là, par contre, il faut faire attention à la montée des eaux, que l'on peut associer au réchauffement climatique, bien sûr. Mais il y a énormément de manières d'utiliser les miracles que l'on peut trouver en mer, ou en tout cas la différence qu'on peut trouver entre de pression, de salinité, de température qu'on trouve en mer, pour développer des solutions moins carbonées et répondre à des besoins de société en croissance et en développement.
Bien brillant, un accompagnement évident, j'allais dire, de la marine nationale, et pas que de notre marine française, mais des marines du monde dans chacun des pays.
Parce que je pense qu'il faut effectivement dézoomer très fortement pour ne pas penser que France et marine française, qui effectivement sont un élément, mais un élément parmi beaucoup d'autres, et une source d'espoir peut-être, que je peux vous donner. L'amiral Vendier, donc le chef d'état-major de la marine, assume la présidence de l'Indian Ocean Naval Symposium, c'est le symposium des marines de l'océan Indien. Il a lancé un concours pour des essais, donc on a rendu les prix récemment, et le thème était justement le dérèglement climatique en océan Indien. On a reçu des essais extrêmement intéressants venant d'officiers de marine ou de personnel civil des armées, des marines, de l'ensemble de l'océan Indien. J'ai été très marqué par des essais notamment venant du Bangladesh, qui expliquaient déjà l'état du pays, la remontée des eaux salines jusqu'à 100 km dans les terres, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc cette prise de conscience est en marche. Je ne sais pas si on avait fait ce concours il y a 20 ans, si on aurait eu les mêmes résultats. Donc il y a une prise de conscience qui se fait, par les marines, mais qui se fait aussi par les écoles, par l'éducation, qui va nous permettre peut-être effectivement d'avancer sur ces questions. Et je dirais, en guise de conclusion pour moi sur ce sujet, un des moteurs puissants de l'humanité, c'est la peur. On est en train de se faire peur, et ce sera sans doute suffisant pour, j'espère dans quelques années, une vraie prise de conscience sérieuse et des actes qui suivront derrière pour protéger l'environnement.
Et en guise de conclusion, Julia Tass ?
C'est très difficile de conclure cette discussion. Il y a encore beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder. Deux choses. D'une part, répéter ce que dit mon co-auteur Sébastien Abyss relativement souvent, c'est-à-dire qu'on va trouver en mer à la fois les solutions, mais aussi les observations de la cristallisation, de la crispation qu'on observe à la fois géopolitique et climatique sur Terre. Et puis, la deuxième chose, c'est donc garder cette note d'espoir, puisque cette prise de conscience, cet intérêt des citoyens pour les enjeux environnementaux et notamment maritimes, elle va nous aider à progresser et elle va nous aider à mieux connaître, mieux utiliser l'espace maritime. Et ça ne peut également que aider, je l'espère, les acteurs qui sont déjà en mer et qui, au quotidien, doivent affronter parfois des phénomènes que l'on connaissait assez peu il y a une cinquantaine d'années et qu'on est capable aujourd'hui de décrypter et d'anticiper.
Géopolitique de la mer, à lire, c'est votre ouvrage avec Sébastien Bis aux éditions Erol. Merci à vous, Julia Tass, responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS. Merci à vous, commandant, capitaine de vaisseau Yann Briand, chef du bureau stratégie et politique au cabinet du CEMM. Merci de nous avoir suivis dans ce podcast Périscope. Vous le retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement.
Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.